Luc, on a eu pas mal de réactions sur 25226 et studio@fm93.com. Comment voulez-vous qu'une étude de 7 800 $ soit crédible quand les libéraux ont mis 20 millions pour un bureau d'études qui n'existe pas? Je suis électricien, ça coûte 6 500 $ pour approuver mes plans électriques sur un projet de 300 000. Aucune crédibilité, dit-il. C'est un peu ce que tu disais, là. Regarde, c'est comme pas sérieux comme étude.
Ben, non,
7 800 $ pour nous dire que ça va prendre au minimum 16 ans si on fait un tunnel et 15 ans si on fait un pont.
Ils ont pris une série de papiers, puis d'études, puis de semi-études, puis de tout ce que tu veux. Ils ont mis ça devant un ingénieur. Ils ont dit, prends pas trop de temps parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Là. Fais-nous un petit quelque chose là, qui montre que ça prend du temps.
Un autre suggère qu'on donne le contrat aux Chinois. Eux autres, ils construisent des ponts en 2-3 ans.
Et c'est vrai.
Et c'est vrai, dans l'étude commandée par la ville, là, en annexe, il y a les ponts suspendus comparables. Puis en Chine, 4 ans, 3 ans, 4 ans et demi, 3 ans, 3 ans, tout pour des 2-3 kilomètres, là.
Oui, tout à fait.
Ils prennent en Suède, pour 2 kilomètres, 4 ans.
Ah oui.
En Turquie, pour 2 kilomètres et demi et plus, 3 ans.
Mais je pense qu'on parle de construction, là.
C'est les constructions.
Parce que par exemple, en Turquie, à Istanbul, les ponts qui traversent le Bosphore, il y en a un qui a ouvert il y a à peu près 4 ans, je pense. C'est qu'ils ont des études de fait, depuis fort longtemps, puis ils ont des options sur la table. Est-ce que je construis là ou je construis là? Mais ils savent que la croissance de la population, Istanbul, c'est devenu une ville de 15 millions d'habitants, fait en sorte qu'ils doivent en ajouter. Alors, quand ils décident de construire, les études sont déjà en place.
Pourquoi eux autres, quand ils grossissent, ils doivent en ajouter, puis nous autres pas? Oups!
J'ai jamais dit ça.
Tu m'as
déjà entendu dire ça.
Hey, je t'ai enduit d'erreur tantôt.
Tu m'as enduit d'erreur.
Tatar est arrivé en échange de Pacioretty, non pas de Galchenyuk.
T'as bien raison, il était à Las Vegas.
C'est les auditeurs qui m'ont rabroué.
Oui, tout à fait, ils ont raison.
As-tu écouté Tout le monde en parle un peu hier?
Oui.
Il y a eu...
Pas au complet, mais okay. J'ai vu le petit gars. Là.
On va commencer par Hubert Lenoir, ce que t'appelles le petit gars. Là.
Oui.
Il est arrivé avec un espèce de tatouage en face en forme de cœur, blanc comme un drap. Il se maquille-tu pour être blanc de main?
Puis il nous a parlé de sa fleur de lys qui éjaculait sur sa fesse, puis toutes sortes de... Oui,
ouais.
D'accord.
Il y a deux choses. D'abord, à un moment donné, là, dans la conversation, il dit qu'il va se crisser en feu. C'est là, il y a eu vraiment, mais je pense, un vrai malaise sur le plateau.
Ben, tout le monde qui écoutait a dû avoir un vrai malaise. Voyons donc, Christian, en feu, tu parles d'une niaiserie à dire.
Écoute ça.
Définitivement, ma vie a changé, tu sais. Puis j'ai... Ça fait quand même pas vraiment longtemps. Puis quand j'ai sorti l'album, j'étais rien, tu sais. Je veux dire, j'étais pauvre, j'avais... Puis c'est sûr qu'après un moment, c'est difficile que ces choses-là te changent. Du moins, t'affectent pas.
Ben oui.
Puis en ce moment, c'est... En plus, mettons, je parle... Dernièrement, tu sais, ça devient plus difficile, je dirais. Je sais pas pourquoi.
Ben, peut-être parce que t'es de plus en plus connu. Donc, de plus en plus de gens ont une opinion sur toi.
Moi, j'ai un peu le goût de me crisser en feu, c'est ensuite. Hein.
Pourquoi? Ça va pas?
C'est un sentiment, c'est pas ça.
Hein? Tu sais que Michel, à côté de toi, il a vécu ça, puis il l'a pas fait. Alors...
Ah non, mais je dis ça de même. Là.
OK, tu jases. Mais on dit pas des affaires de même, là?
Ben, je dis ce que je pense. Mais... Je sais pas, je pensais pas que ça allait... Non, mais tu sais,
je pense pas que ce soit ton premier malaise.
T'as pas le goût, toi, des fois, de...
De me crisser en feu, non.
Ça pogne en feu. Genre, on finit ça, là. Non?
Non. Okay. C'est pas tout le monde. Honnêtement, Hubert, là, c'est pas tout le monde.
Il est vraiment très spécial. Il a l'air d'un petit gars fragile. Il a l'air de ça fragile.
Puis il a fait des sorties contre le système. Je sais pas de quoi il parle.
Ben, il veut pas être avalé par le système. Il veut rester un artiste. Puis là, ils lui font un beau compliment. Ils disent, es-tu le fils illégitime de David Bowie, dans le fond? Qui avait une personnalité un peu dans ce genre-là. Sa réponse montre que le petit gars...
Plus raffiné que ça, quand même.
OK.
Ton look androgyne, tes tenues flamboyantes, ta musique rappelle le glam rock des années 70. Es-tu le petit-fils illégitime de David Bowie?
Non, vraiment pas. J'aime pas nécessairement me décrire comme le mot rock. J'ai jamais vraiment utilisé le mot glam rock non plus. Puis en fait, je pense que, tu sais, si tu prends David Bowie, j'aime vraiment ce qu'il fait, Prince. Je pense qu'ils ont tous fait des trucs marquants dans leur époque, mais moi, après ça, je vais être un musicien de mon époque aussi. Puis je vais être comparé à les grands comme Rihanna ou Beyoncé ou Kendrick Lamar. Ou...
Ouais, c'était des bons choix quand même.
Ouais, c'est mieux.
T'as une bonne confiance en toi. C'est le fun.
J'espère que oui.
Non, mais c'est, bien.
C'est bien.
C'est bon, oui, absolument.
Ouais.
On n'a pas l'habitude d'avoir des gens qui ont une grande confiance.
Dans la vie en général?
Oui, au Québec.
Oui, les gens sont malheureux en général.
Oui, c'est vrai. C'est pas ton corps, là.
Je dirais pas que je suis heureux, mais j'ai confiance en moi.
C'est drôle, hein, ce double langage. J'ai l'air fragile, j'ai envie de me crisser en feu. Puis ensuite, la minute d'après, j'ai bien confiance en moi.
Ben oui. Il y a quel âge exactement, quoi?
T'es tout jeune, là.
20 ans?
Oh, il est dans la vingtaine. Ouais. Il est dans la vingtaine. Moi, j'adore... T'sais, ça me fait souvent penser... Il y a des grands athlètes qui sont comme ça, qui sont des petites personnes, mais de grands athlètes.
Oui.
Il y a 24 ans. Il y a des grands artistes qui sont comme ça aussi. Ce qu'ils font est fantastique. Puis, quand tu les écoutes parler, t'es comme déçu un peu, des fois.
Ben, d'une certaine façon, Myriam, c'est bien que tu le présentes de cette façon-là. Moi, j'ai toujours été de l'école de pensée qui veut que c'est la création de l'artiste qui m'intéresse. Et ouais. Ça, c'est vrai dans toutes les formes de l'art. Et pas la personne qui se cache derrière. Prenons un cas flagrant que tout le monde connaît. Salvador Dali, un des très grands peintres du dernier siècle.
Oui.
Écoute, le nombre de conneries qu'il a dit ce gars-là, entre autres, d'être un ami proche de Franco, puis d'avoir soutenu Hitler, puis tout ce que tu veux.
Il s'est quand même caché durant la guerre à Monterrey, en Californie.
Oui,
là.
Tout ça, là, tout ce qui va avec. Là, il a démontré qu'il avait ni courage, puis même un peu de lâcheté, puis qu'il appuyait les pires monstres de l'histoire. Ça change pas que quand je suis devant une œuvre de Dali, il y a quelque chose d'absolument grandiose et merveilleux.
Ah, oui.
Et des exemples comme ça, Amy Winehouse. Tu sais comment ça a mal tourné, mais quand t'entends Amy Winehouse maintenant, il y a comme une âme dans sa voix qui est absolument extraordinaire. Mais moi, c'est parce que parfois j'ai l'impression, et c'est certainement pas le cas, je donnais un cas là, d'un artiste qui était d'un talent immense et qui est venu très, très riche avec son talent, Serge Gainsbourg.
Oui.
Bon, Serge Gainsbourg, là, c'était un gars d'une culture extraordinaire. C'était un génie de tout ce qui était, tout ce qui... tu sais, le nombre de mélodies accrocheuses qu'il a écrites, c'est absolument incroyable. Les commerciaux, les publicités qu'il a réalisées. Mais puis sa connaissance, je me souviens qu'une fois, il avait fait une émission, c'était un peu pour refaire son image, il faisait visiter ses tableaux favoris du Louvre, puis il expliquait pourquoi ce tableau-là était important historiquement. Tu voyais quelqu'un qui connaissait ça sur le bout de ses doigts. Mais il y avait l'autre Serge Gainsbourg qui m'intéressait aussi, qui était l'irrévérencieux, celui qui envoyait promener tout le monde.
L'ivrogne mal rasé.
L'ivrogne qui disait n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais dans le cas de Gainsbourg, j'avais saisi que c'était un show. Ça faisait partie de son show. Je pense qu'il était très porté sur la bouteille, là, mais ça faisait partie d'un show assez calculé.
Mais je pense que le noir, c'est ça aussi.
Et c'est ce que j'ai... Hier, là, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'espère que c'est un Gainsbourg. J'espère ça. J'espère que c'est pas quelqu'un qui va finir comme Amy Winehouse.
Ou comme Dédé Fortin.
Ou comme Dédé Fortin, effectivement.
D'ailleurs, moi, j'ai un petit deuil, là, parce que j'adorais le groupe The Seasons qu'il avait formé, notamment avec un de ses frères. Une jolie musique, etc. Puis, j'ai un petit deuil qu'il fasse plus partie, en fait, qu'il soit plus dans cette gang-là.
Il faut bien
vivre avec. Bon, l'autre point chaud de cette émission de Tout le monde en parle, ça a été la visite en studio de trois écolos. Je t'ai fait entendre tantôt Patrick Bonin, là, qui dit que faut pas faire de troisième lien. J'ai bien hâte de savoir où c'est qu'ils vont rouler leur voiture électrique. Mais en tout cas... non, c'est un peu ça. Là. T'sais, hier, il disait des choses, puis personne ne les challengeait. Oui, mais les voitures électriques, faut bien que ça roule. Ça prend de l'asphalte aussi, faire rouler des voitures électriques. Quand elles vont être performantes, vos voitures électriques, puis que
elles
ce sera
le sont
plus...
déjà en passant. Oh. La question, c'est une question de prix.
De prix et d'autonomie. Moi, l'autonomie m'arrête encore beaucoup.
Moi, là, je parlais justement hier avec un de mes amis qui vient de s'acheter une Tesla X, modèle numéro 2 dans la série. Elle a quand même une autonomie de 450 km.
Oh oui, mais là, le Tesla, t'es dans 80 000 piastres, là.
Non, celle-là, c'est 68 000. Il m'a dit précisément que ça y avait coûté 68 000 avec quelques options dessus. Quoi qu'il en soit, les voitures électriques vont être très, très, très populaires lorsqu'elles auront résolu les deux choses. Ouais. L'autonomie, là, l'autonomie, ça veut surtout dire des bornes électriques partout. Si je pars puis je m'en vais dans mon patelin natal de Rimouski, puis j'ai pas eu le temps de calculer, puis je pars puis il m'en reste juste pour 240 km, il y a un point donné, il va falloir que je m'arrête, mais en voiture, normalement, je m'arrête à la station d'essence.
Ça te prend 5 minutes. Là,
ben oui,
là actuellement, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, si t'en as pas un qui est arrêté en avant de toi.
Ça te prend une demi-heure, oui, on me dit une demi-heure avec les bornes spéciales.
Oui.
Avec les bornes spéciales,
et
il
y
faut
en a
qu'il
pas
y en
beaucoup.
Ait. Puis il n'y en a pas partout. Alors,
à Québec, sais-tu où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont mis dans l'éco-quartier où il n'y a personne alentour.
Mais ce problème-là de l'autonomie puis tout ce qui vient avec, puis le deuxième problème, hein? C'est quand ils vont avoir des voitures pas mal performantes qui vont coûter 22 000 $ qu'ils vont en vendre.
Alors, je trouvais qu'hier, disons qu'ils se sont pas fait challenger fort, nos trois climatologues.
Ben non, mais ils vivent dans leur propre écosystème, ces gens-là. C'est le plateau Mont-Royal, puis ils s'en vont à cette émission-là, puis Guy Lepage, que j'aime bien par ailleurs, c'est le pape du plateau Mont-Royal, puis il se raconte ça, puis toute la gang hoche de la tête. Ah ben oui, c'est bien évident. Ah ben oui, le pétrole, c'est sale. Ah ben oui, c'est sale. On sait depuis qu'on est au monde que c'est sale, soit dit en passant.
C'est juste qu'on n'avait pas le choix, justement.
On n'avait pas le choix, c'était ça la forme d'énergie la plus disponible.
Il y avait la chercheuse de la d'Ouranos, là, le groupe de chercheurs sur le climat, Dominique Paquin, puis à un moment donné, ils lui ont demandé qu'est-ce qui va changer dans notre climat si ça se réchauffe d'1,5 degré. Écoute la description.
Mais en fait, ce qu'il faut faire pour vraiment réduire son empreinte carbone, il ne faut pas avoir de voiture. Les changements les plus probants, ça va être en hiver. Donc, par exemple, c'est la disparition des patinoires en hiver, c'est une diminution beaucoup du couvert nival, donc du couvert de neige. C'est des précipitations en été, des pluies plus intenses, plus sous forme orageuse, qui vont être accompagnées un petit peu plus de sécheresse, par exemple. C'est le pergé du sol qui fond beaucoup plus, c'est la disparition des glaces dans le Saint-Laurent. Déjà, tout ça se produit maintenant. C'est juste que ça va être exacerbé.
Accéléré.
Ça va être... Exactement.
Ouais.
Je dois te dire qu'elle m'a pas encouragé, là.
C'est-à-dire?
Parce que moins de neige en hiver, ça fait toujours bien ça, de moins à pelleter.
C'est ça, puis moins
de la pluie subite l'été, mais de la sécheresse, c'est ce qu'on aime comme été, tu sais. Qui mouille, là, mais qu'après ça, on puisse profiter de quelques jours de beau temps.
Fais attention, parce que la religion des changements climatiques est devenue si prévalente dans ces milieux-là que toi et moi, les gens qui nous entendent dire quelque chose qui pourrait soulever un soupçon de scepticisme, ils vont penser qu'on devrait être hospitalisé pour des troubles mentaux.
Oui, mais je suis pas sceptique. J'admets qu'il faut faire un effort.
Je
suis juste pas sûr que les efforts des Québécois vont compenser pour l'absence d'efforts de l'Inde, de la Chine et des États-Unis.
Ben d'abord, dans le cas de la Chine, c'est pas vrai. Hein?
Ils ont commencé maintenant.
Ah, mais ça fait longtemps. Puis dans 10 ans, c'est assez reconnu que ça va être l'économie la plus écologique. Pas parce qu'ils sont plus vertueux que nous. C'est parce que s'ils vont pas là, ils vont étouffer, ils vont mourir toute la gang. Alors, je veux dire une affaire, la Chine, s'il y a un pays qui fait des efforts à l'heure actuelle, ce sont eux.
Dominique Paquin, la même, s'est fait demander en fin d'émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses au niveau de chaque individu? Il y a au moins un de ces quatre consignes qu'on va avoir de la misère à suivre.
Mais en fait, ce qu'il faut faire pour vraiment réduire son empreinte carbone, il faut pas avoir de voiture, il faut manger le moins de viande possible, il faut pas avoir d'enfants, puis il faut pas prendre l'avion. Puis je vous dis clairement, personnellement, je suis un peu mal partie.
Puis il faut pas avoir d'enfants, c'est ça?
Oui, c'est ça, j'en ai trois, mais bon.
Ah, OK. Ben moi aussi.
C'est ça.
Moi aussi, alors on...
Mais moi, je contribue à ça, mais pas...
Tu sais, pas avoir d'enfants.
Vraiment, là, c'est scandaleux, dirait une affaire d'amour. Faut pas avoir d'enfants. On va se laisser crever, toute la gang.
On se reproduira plus parce que, de toute façon, les Indiens, les Africains font suffisamment d'enfants pour peupler la planète. Ça fait qu'on va les adopter.
C'est exactement ce que tu dis. C'est exactement comme ça que je me sens. Nous, là, la société riche, là, qui avons compris, là, avec condescendance, comment on doit se conduire avec notre empreinte carbone, on n'en fera plus d'enfants. On va avoir une vie sexuelle tournée totalement vers le plaisir, et puis nous n'en ferons plus d'enfants. On va les importer d'ailleurs. Imagine si c'est épouvantable, dirait une affaire de même. Les Africains vont nous en faire, eux autres. Ben voyons, êtes-vous malade?
Ils en sont rendus à dire qu'il faut pas faire d'enfants.
Tu sais,
ils en sont rendus là. Tu vas dorénavant...
Mais c'est malade mental, ça
le dit. Tu fais des péchés carboniques si tu as un enfant.
C'est complètement fou.
Donc, si tu suis l'instinct naturel de l'être humain qui est de se reproduire,
Il faut changer l'instinct humain parce que ça, la reproduction, on va laisser ça à des peuples inférieurs. C'est ça qui est implicite dans ses propos.
Ben, inférieur, exagère pas, non?
Ben non, mais c'est ça qu'elle semble dire. Si toi, t'es rendu au point où tu veux plus te reproduire, c'est pas moi qui pense qu'ils sont inférieurs. Comprends-moi bien. Okay. Là, je veux pas que personne pense que je suis en train de dire qu'il y a des peuples inférieurs. Je te dis que la pensée de ces gens-là, c'est qu'il y a des peuples inférieurs. Ce qui me choque dans le plus profond de ma conscience.
La pensée de ces gens-là, c'est que l'être humain est de trop sur Terre. C'est un peu ça. Et je dois te dire que quand j'ai entendu le très drôle chef vegan qu'ils ont reçu, Jean-Philippe Cyr, il était vraiment bon.
Il était drôle. Il t'a
dessoufflé quelques mythes, là, genre les allergies au gluten puis toutes ces affaires-là.
Oui.
Il a été vraiment, vraiment bon. Mais il fait partie quand même de cette espèce de religion où tous les êtres vivants ont droit au même respect. Fait que là, il écrase pas les araignées, lui.
Oui.
Il tue pas de moustiques.
Il essaye de les sortir puis les remettre dans la nature.
Parce qu'il est bouddhiste et vegan.
Est-ce que la philosophie bouddhiste et le véganisme ont des points en commun?
C'est la base, c'est la compassion. C'est la compassion envers les animaux. Bouddhiste, c'est pas compliqué, c'est juste de vivre sa vie en essayant de pas être un trou de cul. C'est aussi simple que ça, de pas nuire aux êtres sensibles avec qui on partage la planète. C'est juste ça, être bouddhiste. C'est la compassion envers les animaux, c'est la compassion envers les gens.
Les insectes,
pourquoi pas? Moi, quand je suis au centre de méditation, il y a des souris, on est prêt avec. On peut pas... Moi, les araignées chez nous, quand ma blonde est dans la chambre de bain, je l'entends. Tu es là. Je la tue pas. Moi, je prends un verre avec un petit papier, je la sors dehors pour rejoindre des amis, l'araignée. Même si c'est l'hiver, puis je sais que...
Mais le gars, t'es sympathique.
Hyper sympathique, mais...
Avec de l'autodérision un peu.
Oui, mais il procède quand même de cette mentalité que l'être humain est de trop, puis que la vie d'un moustique, ça vaut autant que la tienne. Et je ne suis pas d'accord, et je vais continuer à exterminer les moustiques autour de moi.
Écoute, Myriam, parfois, je vois des êtres humains, puis je me demande s'il y a raison.
OK, on n'ira pas plus loin. 13h... Oui, tu dis?
Non.
13h11.